Amen.
Amen.
Donc ce matin, nous continuons avec le message 8. Et nous aurons un deuxième message ce matin aussi. Le message 9. Et puis un autre message ce soir. Amen. Donc, ce matin, nous continuons avec Esdras. Hier soir, nous avons touché à la question de notre consécration. De rester, d'aller à l'autel. De construire un autel. Et de rester sur l'autel. Ça veut dire sur la croix. Ça, c'est la volonté de Dieu. La croix, c'est la division ou la séparation du monde. De ce qui est à Dieu et de ce qui n'est pas à Dieu. C'est la grande ligne qui divise tout. Et Dieu, il fait attention à cela. Dieu est un Dieu unique. Et il ne veut aucun mélange. Il n'est pas un Dieu parmi d'autres dieux. Il est le Dieu unique. Et donc il veut un peuple unique. Un peuple qui n'est pas mélangé. Un peuple qui n'est pas pour lui d'une part. Et pour d'autres choses, d'autre part. Dieu déteste ceux qui sont vacillants. Et même il a dit dans l'Ancien Testament, dans Jérémie, il a dit que les païens, au moins les païens, ils ne changent pas de Dieu. Ils restent plus fidèles à leur Dieu que les croyants. Ça, c'est un peu difficile à comprendre. Les païens qui ont leur Dieu, qui ne sont pas, n'est-ce pas, des dieux, qui sont des dieux qui ne parlent pas, qui n'entendent pas, qui ne voient pas, mais ils sont assez fidèles à les adorer. Ils ne vont pas les changer. Mais on a dit que les chrétiens sont les créatures les plus bizarres. Ils changent si facilement. Même après avoir cru, après avoir reconnu Dieu, ils changent ou ils échangent Dieu pour d'autres choses. N'est-ce pas? Ils échangent, comme Paul le dit dans Romains, ils échangent le Créateur pour la créature. C'est-à-dire que au lieu d'adorer le Créateur, ils adorent toutes les créatures. Et donc, Dieu se lamente de la condition de son peuple. Donc, la première chose que le peuple a fait quand il est retourné à Jérusalem, c'était de construire un autel pour indiquer, démarquer une ligne de séparation. De dire, nous sommes pour Dieu seul. Notre vie est pour Dieu seul. Et désormais, je vais vivre une vie séparée pour Dieu. Ma vie, mon ancienne vie est terminée sur la croix. Et je vais rester là sur la croix. Je ne vais pas descendre. Et de cette consécration que le temple, le deuxième temple, a commencé à être rebâti. Mais dans les versets que nous avons lus ce matin, il y a quelque chose qui arrive. On vient aider. On vient aider à la construction. Il y a des gens, n'est-ce pas, les ennemis de Judas et de Benjamin, n'est-ce pas? Mais ils ne se disent pas ennemis. Ils se présentent comme amis. Plutôt. N'est-ce pas? Ils viennent et ils disent: nous bâtirons avec vous. Ça c'est assez bien, n'est-ce pas? Bah, je ne sais pas, quand vous étiez en train de construire cette salle de réunion, s'il y avait des gens qui venaient vous offrir, vous aider, est-ce que vous ne seriez pas content? Nous avons du secours, n'est-ce pas? Du soutien. Et donc, apparemment, c'est une bonne proposition. Et ils donnent la raison, ils expliquent pourquoi ils veulent, ils voulaient aider les enfants d'Israël. Ils disent: car, comme vous, nous invoquons votre Dieu. Et nous lui offrons des sacrifices. Depuis le temps d'Ésar Adon, le roi d'Assyrie, qui nous a fait monter ici. Donc, ils disent que nous sommes comme vous. Parce que nous invoquons votre Dieu. Alors, ce sont des amis. Mais qui étaient ces gens? Et c'est ça là. Et voilà pourquoi nous avons lu les versets dans 2 Rois, chapitre 17. Parce que ces versets expliquent qui étaient ces gens. Et aussi peuvent aussi expliquer qui sommes-nous. Nous pouvons être comme ça. Alors, ce n'est pas pour juger, ce n'est pas pour parler d'autres gens. Mais de voir notre condition. Donc, 2 Rois, chapitre 17, nous explique clairement que le roi d'Assyrie, Ésar Adon, est venu amener captif à prendre contrôle du royaume d'Israël, du nord. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait un échange. Il a transporté, n'est-ce pas? Il a fait immigrer, on peut dire, les gens d'Assyrie, de Babylone, en Israël. Et il a fait déporter Beaucoup d'Israël en Assyrie. Donc, il a fait un échange. Et donc, il y a eu un mélange, n'est-ce pas, de peuples, de races. Parce que, bien sûr, les Assyriens qui sont entrés en Israël, ils ont épousé, n'est-ce pas, ils se sont alliés. Avec des Israélites qui sont restés et vice versa, n'est-ce pas? Donc, on ne pouvait plus distinguer qui était Israélite et qui était Assyrien. Et c'est de là que viennent les, ce qu'on appelle, la Bible appelle les Samaritains. Les Samaritains. Donc, chaque fois que vous voyez le mot Samaritain, dans le Nouveau Testament, ça veut dire quoi? C'est un mélange, n'est-ce pas, entre Israélites et Assyriens. Et donc, les Assyriens qui sont venus en Israël, n'est-ce pas, ils ont amené leur coutume, leur Dieu en Israël. Et ils ont commencé à, bien sûr, à adorer. Mais c'est bizarre, c'est intéressant. Il y avait des lions, n'est-ce pas? Des lions. Et ça, c'est vrai. En Israël, il y avait beaucoup de lions.
Israël a
beaucoup de bêtes sauvages. Même l'Éternel, même bien avant. Avant que les enfants d'Israël soient même entrés en
Canaan.
Dieu leur avait dit que vous allez chasser, vous allez chasser les peuples. Vous allez les éliminer. N'est-ce pas? Mais pas trop vite. Petit à petit. De peur que le pays soit envahi par des bêtes. N'est-ce pas? Donc, ça veut dire que il y avait des bêtes, il y avait des lions.
C'est
pas même Samson, n'est-ce pas? Il a été attaqué par un lion. David, n'est-ce pas? Il a sauvé, n'est-ce pas, l'agneau de la bouche du lion. Oui, donc Dieu, donc il y avait des lions qui ont tué les Assyriens. Alors, on a dit au roi d'Assyrie, c'est parce que tu ne connais pas le Dieu de la terre. Donc le Dieu de la terre vous punit. Alors, tu dois le connaître. Et donc, on a invité un prêtre, n'est-ce pas, un juif, qui était en Assyrie ou en Babylone.
Assyrie, on l'a dit, Babylone.
On l'a fait venir à Samarie pour enseigner le peuple le vrai Dieu. Et il est venu, il s'est installé à Bethel et il a commencé à instruire. pas mal. C'est bon. N'est-ce pas? C'est assez bon. En lisant ça, nous pourrions peut-être être assez impressionnés. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Les enfants d'Israël, les gens, n'est-ce pas, de ce pays, les Samaritains, on ne sait même pas comment les appeler. Ils ont commencé à craindre l'Éternel et aussi à servir leur propre Dieu. Parce que en secret, parce que l'instruction de Dieu, n'est-ce pas? Apparemment, ce prêtre, il a instruit. Mais lui-même, je doute, est-ce que lui, il était séparé? N'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il enseignait? Oui, il enseignait le vrai Dieu. Mais est-ce qu'il disait qu'il n'y a qu'un seul Dieu? Et que pour adorer ce Dieu, vous devez vous séparer de tous les autres dieux. C'est ça le problème. Le problème principal avec presque tous les rois d'Israël et de Juda. Sauf David.
David le Capo.
Et certains d'autres. La plupart des rois ont servi d'autres dieux. Ceux qui ont servi le vrai Dieu, ils l'ont servi, mais ils n'ont pas brisé les autres. Et voilà le problème. Et donc souvent, quand la Bible parle des rois, la Bible mentionne les bonnes œuvres des rois. Il a fait ceci, il a fait cela. Mais toujours, la Bible ajoute. Mais il n'a pas détruit ou il n'a pas brisé les hauts lieux, n'est-ce pas? Il a servi Dieu, mais pas comme son père. Pas comme David. Donc voilà le problème. Oui, on peut enseigner, on peut instruire. On peut même présenter Dieu. Mais s'il n'y a pas de séparation, il n'y a pas de rupture. Il y aura toujours un mélange. Il y aura toujours deux vies que nous allons vivre. Une vie, oui, apparemment pour Dieu, mais une autre vie qui est tout à fait pour autre chose. Donc, ce prêtre, il est venu. Mais le fruit ou le résultat de son œuvre était un mélange complet jusqu'à l'époque, n'est-ce pas, jusqu'à cette époque-là. Et donc, voilà les gens, voilà ces mêmes gens, enfin leurs descendants, bien sûr, mais ce même peuple qui maintenant vient.
Et on va.
Il s'étend la main. Nous avons le même Dieu que vous. Nous avons encore le même Dieu que vous. On va se serrer la main. Et on va collaborer ensemble. Alléluia. Est-ce qu'on a répondu alléluia? Merci.
Alléluia.
Merci mon frère.
Après là on est venu.
On va travailler ensemble. Non, Zorobabel et Josué, ils étaient vraiment le Seigneur, ils connaissaient le Seigneur. Ils ont dit non, 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 nous, vous n'allez pas bâtir. C'est nous qui allons bâtir. Seul. Nous n'avons pas besoin de votre collaboration. Et donc, voilà le premier fardeau de ce matin. Que Dieu n'a pas besoin d'aide pour construire sa maison. Il n'a pas besoin de nos efforts. Tant que nous sommes dans le mélange. Donc tout ce qui est en nous, qui est mélangé, qui est de Dieu et d'autres choses, doit être quoi? Doit être tranché. Comme une épée, n'est-ce pas? La parole de Dieu doit venir comme une épée pour séparer, pour nous séparer. Donc, nous devons dire non. Non au monde. Non aux idoles. Ah, encore une fois, et nous sommes en train de dire ça, de partager ça depuis notre arrivée. Nous avons besoin d'une vie. Pas de deux vies. D'une vie pure. Pas d'une vie de mélange. Ce n'est pas, nous ne sommes pas, on peut dire, nous ne sommes, oui, d'une part, nous sommes samaritains. N'est-ce pas? Ça, c'est notre condition. Parce que nous avons perdu notre pureté. Nous avons permis aux Assyriens, à d'autres choses, d'entrer en nous pour en créer des Samaritains. N'est-ce pas? Spirituellement. N'est-ce pas? Donc, voilà notre condition. Voilà la captivité. Maintenant, Dieu nous appelle de sortir de ce mélange, de ne plus être samaritain, de tuer ce qui est samaritain en nous, tuer, n'est-ce pas, la nature pour être purifié. Amen.
Amen.
Ça, c'est le mélange
et
la plus grande frustration. Même beaucoup plus grave que l'opposition. Parce que l'opposition de l'extérieur, vous pouvez tout de suite l'identifier. Vous pouvez la reconnaître. La persécution. N'est-ce pas? De l'extérieur. Ah, on ne vous aime pas. Parce que vous, parce que vous invoquez, n'est-ce pas, le nom de l'Éternel. Parce que vous êtes chrétien. Parce que vous rassemblez, n'est-ce pas? Et vous avez des réunions pour louer le Seigneur. Il y a de l'opposition. Quand il y a de l'opposition de l'extérieur, ça veut dire que nous sommes saints. Nous sommes que nous suivons le Seigneur. Donc d'une part, l'opposition est positive. N'est-ce pas? Ça c'est. Oui, nous ne voulons pas l'opposition. Nous voulons la paix. Mais l'opposition prouve que Dieu est avec nous. Et c'est pendant l'opposition que l'Église s'accroît. C'est évident dans l'histoire de l'Église. La persécution amène toujours une position pour le Seigneur. N'est-ce pas? Et même on a dit que le sang des martyrs, n'est-ce pas? Et la semence de l'Église. Plus Satan, n'est-ce pas, essaie de détruire l'Église, plus l'Église croit. Mais Satan est très subtil. Alors il s'est vite changé son stratagème. Alors il va attaquer de l'intérieur. Et ça c'est par le mélange. Et c'est ça qui frustre, qui endommage le témoignage du Seigneur le plus. Parce qu'on ne la reconnaît pas. On pense qu'on est assez bien, on va assez bien. Si quelqu'un venait nous dire renoncez au Seigneur Jésus, je pense que nous dirions tous non, je n'y renonce jamais. C'est mon sauveur. C'est mon rédempteur. Et comme un frère a dit il y a longtemps, comment est-ce que je peux parler mal de quelqu'un qui n'a fait que du bien pendant toute ma vie? Mais si on venait nous dire, tu peux aimer le Seigneur. Et je vais te donner quelque chose. N'est-ce pas? Pour que tu puisses aimer le Seigneur. Et aussi t'occuper de ta propre vie. Parce que tu as besoin de vivre. Alors, tu as besoin de t'amuser. Tu es un homme. Alors, un homme ou une femme, vous avez besoin de vivre. Alors, je vous donne quelque chose de plus. Et vous avez le Seigneur en même temps. Et gardez-le. Ne renoncez pas à lui. Mais vous pouvez continuer. Cette offre semble assez bonne. Et beaucoup de chrétiens tombent dans le piège. Et ils peuvent continuer leur vie en croyant qu'ils adorent l'Éternel, mais ne sachant pas qu'ils ont perdu l'Éternel. Ils se sont trompés. Et ça peut être notre cas aussi. Alors, nous avons besoin de nous purifier. Et Zorobabel et Josué se sont séparés de ce mélange. Aujourd'hui, ce mélange est en nous. Oui, parfois, normalement, n'est-ce pas, pour la plupart du temps, ce mélange est en nous. Ce qui est en nous, qui veut bâtir le témoignage du Seigneur, n'est-ce pas? Qu'est-ce, ce qui est en nous qui dit, ah, j'invoque le même nom du Seigneur que toi, doit être éliminé. Zorobabel et Josué, ils l'ont fait. Ne pensez pas que ses adversaires, c'était d'autres personnes. Oui, oui, ils étaient d'autres personnes. À l'époque. N'est-ce pas? Mais aujourd'hui, qui sont ses ennemis? Est-ce que ce sont les ennemis de l'extérieur? Normalement, non, pas de l'extérieur. Mais c'est en nous.
C'est,
l'ennemi est en nous. Comme les Lévites hier soir. Ils ont répondu à l'appel de Moïse en tuant leurs proches, leurs frères, leurs prochains. Mais qui est notre frère? C'est celui ou ce qui est plus proche de nous. Et aujourd'hui, c'est ce qui est en nous. Cet élément en nous qui veut Dieu, mais qui veut créer quelque chose d'autre pour continuer avec Dieu et l'autre chose. Un mélange. Donc, ce mélange ne peut pas bâtir la maison. Non, nous devons l'éliminer. Notre manière de vivre, la façon dont nous vivons, doit être très très claire. Et s'il y a un décalage, nous avons besoin de la lumière du Seigneur. Si dans ma vie, il y a une frustration, si dans ma vie il y a une habitude, il y a une tendance à une certaine chose, je ne peux plus continuer comme si tout allait bien. Vous voyez, ça c'est le problème. Il faut d'abord identifier le mélange. Ça c'est, je dirais, la moitié de la bataille. Reconnaître le mélange. Et ne pas être content. Plus nous sommes contents, plus nous sommes satisfaits, Ça, c'est ma vie. Ça, c'est ma manière de vivre. Mais j'aime toujours le Seigneur. J'adore toujours l'Éternel. Je viens à la réunion assez souvent ou de temps en temps. Je fais assez bien. Pourquoi est-ce que tu me déranges? Pourquoi est-ce que tu me troubles? N'est-ce pas? C'est comme Akab, le roi Akab. Vous vous souvenez? Quand Élie est venu auprès de lui, il a dit à Élie, ah, c'est toi, encore toi, troubleur d'Israël. Parce que chaque fois que Akab voyait Élie, Élie avait quelque chose à lui dire. Non, toi, tu ne vis pas comme tu devrais vivre. Toi, tu ne vas pas bien. Et Akab, finalement, il a... Élie, va-t'en, je veux me débarrasser de toi. Voilà. Et souvent, nous sommes comme ça. Non, moi, j'ai ma vie. Je vais vivre la façon dont je veux vivre. Et Zorobabel et Josué ont dit non. Il faut des combattants. Zorobabel était un combattant. Pour prendre position. Pour dire non, vous n'allez pas bâtir avec nous. Ça veut dire que cette manière de vivre qui est en moi ne va pas, ne peut pas bâtir la maison de Dieu avec ceux qui adorent Dieu. Les deux doivent se séparer. N'est-ce pas? Une manière de vivre doit être éliminée et jetée dans la mer. Parce que autrement, il n'y a pas moyen. Les deux ne peuvent pas coexister. Impossible. Donc, voilà le fardeau, n'est-ce pas? Avons-nous une vie qui n'est pas, qui ne plaît pas à Dieu? Qui est mélangée? Cette vie doit être tranchée. Donc, encore une fois. Et nous allons même en parler pendant la prochaine réunion. Et même ce soir. Et donc, si vous en avez assez, je m'excuse. Mais c'est la parole de Dieu. Dieu est très clair, il le dit. Et je parle à moi-même. N'est-ce pas? Est-ce que dans ma vie, il y a quelque chose qui a besoin d'être séparé, d'être éliminé? Est-ce qu'il y a un rapport? Un rapport, un lien avec quelqu'un d'autre. Avec un membre du sexe opposé. Qui doit être rompu. Tout de suite. Et nous viendrons à ça ce soir. Dans Esdras, chapitre 9 et 10. N'est-ce pas? Est-ce qu'il y a une union qui a besoin d'être rompu. Est-ce qu'il y a besoin d'une repentance? D'avoir ou d'être entré dans une union illégitime.
Vous
voyez, tout ça, ce sont des choses qui on n'aime pas en parler. Mais c'est justement ces choses-là qui frustrent, qui empêchent l'avancement du témoignage. Parler de l'église, de la construction de l'église, ça ne sert à rien si ces choses-là ne sont pas réglées. Est-ce qu'il y a quelque chose aujourd'hui ou ce week-end qui doit être réglé? Un mariage qui risque d'être détruit à cause de ça. Il faut de la repentance. Mais pas seulement je m'excuse. J'ai été coupable ou je suis entré dans un rapport illégitime. Maintenant, on reprend, n'est-ce pas, la liaison entre mari et femme. Non, ça, la consécration n'est pas bon marché. La consécration est chère. Elle n'est pas légère. Souvent, nous pensons que même la repentance, elle se fait. Et c'est fini. Je me suis repenti. Et le Seigneur l'a oublié. Et toi aussi, tu dois l'oublier. Ça ne se passe pas comme ça. Je m'excuse, oui, le Seigneur oublie nos péchés. Mais Paul, l'apôtre Paul, il n'a jamais oublié ce qu'il était dans le passé. Oui, tous ses péchés ont été pardonnés. Mais Paul, jusqu'à la fin de sa vie, quand il est en train d'écrire à son enfant spirituel, Timothée, il se décrit comment il était. Personne insultant, n'est-ce pas, destructive, qui a persécuté l'église. Mais Dieu a eu miséricorde. Nous ne nous rendons pas compte du témoignage de Paul.
Paul veut rassurer.
Trois fois dans Actes. N'est-ce pas? Au moins deux fois, trois fois dans Actes. Il témoigne. Une fois devant les Juifs. De sa persécution d'Étienne. By Stevens. Oui.
D'Étienne.
Et puis la deuxième fois devant Festus, n'est-ce pas? Comment il a persécuté les chrétiens.
Et
la troisième fois, devant
Agrippa,
encore une fois, comment il persécutait, n'est-ce pas? Il était contre Dieu, il pensait qu'il servait Dieu. Mais il était contre Dieu lui-même. Et donc le Seigneur lui est apparu pour lui dire: Paul, Paul, pourquoi me persécutes-tu? Ça, son passé est resté avec lui. Pour lui rappeler la personne qu'il était. Et combien il avait besoin de la miséricorde du Seigneur. Et donc, pour Paul, la repentance n'était pas légère. Et pour nous, la repentance. Qu'est-ce que c'est que la repentance? Ah, quand il y a un mélange comme ça, nous avons besoin d'une confession, d'une repentance détaillée, profonde, surtout quand il s'agit du rapport entre le mari et la femme. Parce que les offenses entre mari et femme, surtout l'offense, et je parle principalement de l'offense de l'infidélité. Ne se résout pas facilement. Souvent, nous prenons le Seigneur trop légèrement. Même le sang du Seigneur trop légèrement. N'est-ce pas? Le sang nous lave. Mais le sang ne change pas notre nature. Oui, le sang lave notre conscience. Mais il ne lave pas notre nature. Notre nature ne peut pas être lavée. Notre nature doit être terminée et changée. Renouvelé. Et ça, c'est la croix. Mais c'est quoi la croix? Ce matin, je veux parler pratiquement. Parce que nous parlons de la croix. La croix. Mais dans un mariage, où est la croix? Qu'est-ce que c'est que la croix? La croix, c'est là quand je me rends compte ce que j'ai fait. Et je n'ose même pas regarder la personne. Comme le publicain dans Luc. Il a prié. Mais il n'a même pas levé les yeux, n'est-ce pas, au ciel. Mais il s'est frappé, n'est-ce pas, la poitrine, en disant: Dieu, sois miséricordieux envers moi, le pécheur. Donc, un mariage a besoin d'une profonde réalisation. De l'erreur. N'est-ce pas? Et si, en tant que mari, j'ai rompu, n'est-ce pas, l'alliance que j'ai faite avec Dieu, avec ma femme devant Dieu, quelle est mon attitude? Ah, j'ai péché, je m'excuse.
Bon, nouveau,
mais on reprend notre vie comme avant. Qu'est-ce qui nous empêche? Ça veut dire que nous ne sommes pas même pas rendus compte de ce que nous avons fait. Il doit y avoir une réalisation, même une horreur. Une horreur, une haine. Une haine de ce que nous avons fait. Un crime, n'est-ce pas, contre Dieu et contre la personne. Ça, c'est la première chose. Et de renoncer à tout droit. Je sais que dans le mariage, ou dans le rapport, le mari et la femme insistent ou réclament des droits. N'est-ce pas? Le mari réclame un certain droit. C'est pas, et si vous êtes marié, vous savez de quoi je parle. Je n'ai pas besoin de le préciser. Mais je m'excuse, mais quand il y a eu une infidélité, vous avez renoncé à ce droit. Quand il y a une offense, tous les droits sont annulés. Les pécheurs, n'est-ce pas, un pécheur n'a aucun droit devant Dieu. Et un pécheur ne peut pas venir à Dieu. Dieu, oui, j'ai péché, mais mais j'ai toujours mon droit de vivre. Tu dois me nourrir. Tu dois me donner quelque chose de bien. Non, le pécheur n'a aucune voix. Il est muet. Il n'a rien à dire. Il ne peut plus rien dire. Tous ses droits ont été séchés. Et c'est pareil dans le mariage. Les droits de mari.
Ah.
Sont terminés. Et ça, c'est, je dirais que ça, c'est le chemin à la restauration. N'est-ce pas? De la part de la femme ou de l'autre partie. Il faut beaucoup, beaucoup d'amour. Beaucoup de restauration pour que le rapport soit restauré. Et même là, même alors, même encore, le rapport est toujours est très délicat. Parce que même la confiance, n'est-ce pas? Oui, c'est une chose de se repentir. Une autre chose de pardonner. Mais une autre chose de se fier. D'avoir de la confiance. Parce que la confiance a été trahie.
Brisée.
Et donc, pour que l'un ou l'autre se fie encore à l'autre, oui, ça demande beaucoup, beaucoup de restauration, beaucoup de miséricorde. Donc, mon point c'est, donc ce que je suis en train de dire, je ne suis pas conseiller de mariage. Parce que je n'ai pas de formation dans ça. Mais je suis marié. Et je connais d'autres couples qui sont passés par qui ont dont le mariage a souffert. Et même dont le mariage a s'est terminé en divorce à cause de ça. Et je suis sûr que vous en connaissez aussi plusieurs.
Mais
nous sommes tous dans le même la même situation. Moi y compris, parce que moi je voyage beaucoup et je suis seul.
Enfin,
c'est-à-dire que je ne suis pas avec ma femme tout le temps. Donc je sais, je connais la situation. Et je pense que peut-être vous aussi, il y en a certains qui peut-être voyagent ou qui se déplacent sans votre femme, mais même avec votre femme, vous êtes avec votre femme, vous habitez avec votre femme, la tentation est toujours là, n'est-ce pas? Mais quand on s'absente, l'ennemi, l'opportunité, n'est-ce pas, d'être mélangé et beaucoup plus. Et plus. Donc, j'ai besoin, n'est-ce pas, de me purifier. Et j'ai besoin de me rendre compte de ma manière de vivre devant le Seigneur, à qui j'appartiens. Et donc, s'il y a aucune tendance ou aucune inclination à un rapport illégitime, c'est maintenant le temps de le briser. N'attendez pas que le rapport arrive à un moment ou à une, n'est-ce pas, à un moment où c'est trop tard. Le moment de l'arrêter est maintenant. Voilà, coupez ça. Coupez nettement. Vous tournez le dos et vous vous éloignez. Ça c'est Zorobabel. C'est ce qu'il a fait. N'est-ce pas? Il a dit non. Il s'est séparé du mélange. Pour qu'il reste seulement une manière de vivre. Et ça c'est être fidèle à Dieu.
Et,
mais, oui, je suis fidèle à Dieu. C'est facile de dire. Est-ce que je suis fidèle à ma femme? Ça, ce n'est pas aussi facile à dire. N'est-ce pas? La preuve de notre fidélité à Dieu et notre fidélité à notre femme, à notre mari, et la manière dont nous vivons sur la terre. Voilà, donc j'ai touché le mariage. Et je m'excuse parce que je n'ai pas autant que je m'en souvienne. Je n'ai pas parlé aussi fort dans le passé, mais je me rends compte de la nécessité de s'adresser à ces choses. Parce que pour que l'Église avance, nous avons besoin de régler ces choses une fois pour toutes, n'est-ce pas? Comme hier soir j'ai mentionné la sœur qui a été tuée, n'est-ce pas? Elle avait dit: j'ai réglé ça il y a longtemps, au début. Alors maintenant, c'est facile. Enfin, c'est plus facile. Alors, il faut régler. Régler ce qui doit être réglé. Pour se séparer du mélange. Oui. Donc, deuxième fardeau. Qui est toujours lié au premier, c'est que il est très facile de céder à la tentation d'employer des méthodes ou des moyens de bâtir l'Église. Mais ça vient toujours, le problème est toujours notre nature. Le mélange qui est en nous. Nous voyons souvent d'autres groupes, d'autres chrétiens. Et nous demandons, mais pourquoi? Pourquoi? N'est-ce pas? Bon, eux, ils font assez bien. Ils se multiplient. Et je ne dis pas que nous ne devons pas apprendre des autres. Qu'il ne faut pas avoir un esprit ouvert, un cœur, n'est-ce pas, pour apprendre. Mais nous ne devons jamais oublier ce que Dieu nous a donné. La vision qu'il nous a donnée. Le modèle qu'il nous a donné. De l'Église. Il a dit à Pierre dans Matthieu chapitre 16: je bâtirai mon église. Ça veut dire que l'église est son église. Ce n'est pas notre église. Non, l'église n'est pas notre église. Alors, il y a des gens qui disent: ah, je vais à mon église. Non, 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 c'est pas votre église. C'est l'église de Dieu. Bon, ben ils sont simples, ils savent. Mais nous, n'est-ce pas, nous pouvons dire la même chose. Je vais bâtir mon église. Quand moi, c'est mon tour, n'est-ce pas, ou quand moi, je suis responsable. Je vais faire les choses, n'est-ce pas, selon ma façon. L'église sera différente. Bon. il faut régler au début que l'église est l'église de Dieu. N'est-ce pas? Et que Dieu nous a montré, nous a donné un modèle. Alors quand Dieu il a donné le modèle à Moïse, et il a dit à Moïse, attention à comment tu construis. Tu vas construire selon le modèle que je t'ai donné sur le mont. Donc la parole était à Moïse, qui était le serviteur de Dieu. N'est-ce pas? Et il était responsable de suivre le modèle. Donc aujourd'hui, le Seigneur nous parle aussi. Comment est-ce que nous construisons? Comment est-ce que nous suivons le modèle? Le deuxième temple ici, ils ont suivi le modèle. Ils ont commencé avec l'autel, n'est-ce pas? Et ils ont construit. Ils ont construit. Le deuxième temple était plus petit que le premier, n'est-ce pas? Les dimensions étaient différentes parce qu'ils étaient moins nombreux et plus faibles, dans le sens que ils n'avaient pas autant, n'est-ce pas? David avait combien? 100 000 talents d'or.
David a talent à l'Afrique, 6 talents à l'Afrique.
Et un million. Et un million de talents d'argent.
Et million de gars, talent au gâteau.
Et on ne sait pas combien de talents de terrain. Mais ces juifs qui sont retournés, ils n'avaient pas. Il y avait sûrement pas même près de ce que David avait. Donc ce qu'ils ont construit était selon leur capacité. Et donc Dieu était, il était très bien, il était content avec ça. Parce que ce n'est pas combien nous avons, mais où est notre cœur? Ce que nous avons, nous l'offrons à Dieu. Amen. Mais se détourner du modèle, ça veut dire se détourner de ce que Dieu nous a montré. Et c'est de suivre notre propre choix. Et dès que j'insiste sur mon choix, je suis dans le mélange. Tout de suite, il y a du mélange. Quand nous voulons emprunter ou nous servir des méthodes sans chercher le Seigneur et sans chercher, sans comparer le modèle que nous avons reçu, nous tombons dans le mélange. Nous exprimons le mélange qui est en nous. Quelque chose que, vous voyez, encore, ça revient toujours à notre manière de vivre. Quelque chose dans ma façon de vivre que je peux amener à l'église pour bâtir l'église. Non. Je vous donne un exemple. Il y a des jeunes, n'est-ce pas, qui sortent avec enfin disons de jeunes gens qui sortent avec des copines. Et peut-être qu'ils veulent se marier. Mais la copine n'est pas chrétienne. Elle ne connaît pas le Seigneur. Alors, le jeune garçon, il dit, ben, si je sors avec elle, si on se marie, elle va devenir chrétienne. Et je vais l'amener à l'église. Vous avez déjà entendu ça? Et donc, je l'aurai sauvé. Et il y aura un membre de plus. Alors, laisse-moi, je vais l'épouser. Je vais là. Et il est vrai qu'il y a eu des cas comme ça. J'en connais plusieurs. Où soit le mari ou la femme n'était pas chrétien avant. Mais il est devenu chrétien. Alors, donc je peux m'épouser, je peux me marier. Et je vais amener. N'est-ce pas, ma conjointe, n'est-ce pas, au Seigneur. Ça, est-ce que c'est selon le modèle qui nous a été donné? vous voyez le résultat. Oui, il y a des cas, il y a des exceptions, oui. Dieu est Dieu. Mais vous faites ça. Si vous faites comme ça, vous allez voir, c'est ce qui arrive souvent. C'est que ce qui, n'est-ce pas, l'autre partie va vous tirer. N'est-ce pas, à son niveau. N'est-ce pas? Voilà. Il est ou elle est, n'est-ce pas, par terre. Vous êtes sauvé, vous êtes chrétien. Mais vous n'êtes pas tellement fort. Voilà le mélange. N'est-ce pas? Vous pensez que vous êtes fort. Je vais là. L'élever. Non. C'est elle ou c'est lui qui va vous faire descendre. Oui. Et donc, méfions-nous. Ce n'est pas selon le modèle que le Seigneur nous a donné. Vous voulez amener à utiliser des méthodes du monde, n'est-ce pas, ou que d'autres gens utilisent, d'autres chrétiens utilisent. Ok, attention. D'abord, il faut, qu'est-ce qui est en moi? Qu'est-ce qui est en moi? Est-ce que c'est selon mon goût? Selon ma préférence? Ou est-ce que c'est selon le modèle qui nous a été donné? Dieu veut un témoignage de lui-même. Dieu est content avec lui-même, de ce qui est de lui-même. Donc, si nous sommes peu nombreux, ce n'est pas pour sortir ailleurs, pour employer des méthodes, pour nous multiplier. Oui. Dieu veut que nous nous multiplions, que nous nous répandions, que nous, n'est-ce pas, que le nombre s'augmente. Mais comment? C'est selon le modèle Alors, il faut toujours être fidèle à ce que le Seigneur nous a montré. Mais encore une fois, ça commence avec moi, avec ma vie. Si j'ai quelque chose à proposer, je dois me demander, est-ce que moi, je vis une vie qui est conforme à la volonté de Dieu, conforme au modèle. Mais si notre vie n'est pas conforme, nous n'avons pas le droit de réclamer. Ah, l'Église doit faire ça. Pourquoi est-ce que l'Église ne fait pas ça comme les autres? Et tout au long, moi, je suis infidèle au Seigneur. Je vis secrètement, autrement. J'ai pas le droit. J'ai déjà renoncé à tout droit. Je dois me taire jusqu'à ce que je me repente et que je vive une vie qui plaît à Dieu. Dieu ne veut pas nos propositions. Dieu veut notre vie. Il veut une vie, une seule vie qui est vécue pour lui-même. Amen. Sans mélange. Amen.
Amen. Thank you.